Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Lucci.
Salut.
Comment tu vas?
Ouais, nickel, et toi?
Bah, très bien, merci. Bienvenue dans BPM. Bah,
merci beaucoup pour cette invitation.
Avec plaisir. Avant qu'on parle de ton parcours d'auditeur et ensuite de producteur, je vais faire une petite présentation accélérée pour que nos auditeurs sachent la raison pour laquelle tu es ici. Donc, Lucci, producteur qui, depuis environ 5 ans, s'est fait connaître grâce à des compositions pour Ben PLG, Bekar, Limsa Dolnay, Giorgio, Le Troisième Œil ou encore Josman. Tu as d'ailleurs été un des artistes récompensés pour la flamme du morceau de l'année pour Intro Josman, dont tu es un des coproducteurs. Félicitations pour ça.
Merci.
Et tu es aussi ingénieur du son en plus d'être producteur. Parlons déjà donc ce morceau intro, puisqu'il vient encore une fois d'être couronné
de
la flamme du morceau de l'année. Déjà, comment t'as vécu cette récompense, toi?
En vrai, j'étais trop content. Surtout, je trouve le point sur lequel je suis trop content, c'est vraiment qu'un morceau comme ça, avec un breakbeat, avec des accords que t'entends pas dans le rap en vrai, qui sont plus avec des codes un peu à la Radiohead ou des choses comme ça, se retrouve là, je trouve ça trop bien. Surtout que ça récompense vraiment le côté morceau que le côté hit, même si c'est indirectement un...
C'est devenu un anthem, comme disent les Américains, un hymne de son répertoire à lui, quoi.
Ouais, c'est ça. Et surtout que ça... Enfin, je sais pas, la structure est vraiment particulière, t'as des changements d'accords qui sont assez riches. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop bien... j'aime vraiment bien, enfin j'aime bien aussi les morceaux qui étaient à côté, les die et tout ça, c'est trop bien, mais je trouve que le fait qu'un morceau comme ça soit récompensé, je trouve ça, je sais pas, ça, comme le morceau DC's et Damso, tu vois, qui est en deux parties et tout ça, je trouve que
c'est des morceaux qui rentrent pas dans les codes des modes actuels des énormes hits de rap,
c'est ça, et du coup automatiquement en vrai c'est des, enfin faire des morceaux comme ça et avoir des récompenses comme ça, ça me met en confiance sur ce que je défends, entre guillemets, en tant que producteur, à essayer des nouvelles choses, à mélanger des styles et tout ça. Enfin, ça te dit, ok, tu peux faire ça et c'est bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Et je me sens seul au cœur du peloton. La pression a haussé le ton. Je comprends pas, j'ai déjà touché le fond. Je paye les frais de ma dévotion. Du mal à dire je t'aime, du mal à exprimer mes émotions. Moi, j'ai pas toutes les notions, j'ai pas toutes les solutions. J'avais enseigné l'amour.
Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours d'auditeur. C'est quoi ton premier souvenir musical, Lucci?
Eh ben, je pense un peu comme tout le monde, entre guillemets, chez mes parents. Mon père fait de la batterie professionnelle, était ingé son, producteur aussi. Et du coup, automatiquement, il y avait toujours du son chez moi. J'allais tout le temps à des concerts, j'allais le voir. Je sais que j'avais beaucoup, enfin, en termes d'influence, c'est beaucoup de blues, beaucoup de rock. Des années 70, des trucs comme ça. Et après, je sais pas, je me souviens aussi, je sais qu'il y avait des trucs qui m'avaient marqué, que j'avais réécouté par la suite et que je connaissais par cœur alors que j'avais jamais été écouté. Mais genre des albums comme Moby, c'est celui où il y a son casque de cosmonaute.
Ouais.
Celui-là, quand je me le suis repris, je me suis vraiment pris une claque. Je pense que c'est ça, les premiers, ou des... Mais je pense des premières claques, ça doit être des groupes comme les... Led Zeppelin, Supertramp, des trucs comme ça, vraiment, ça m'a trop marqué à ce moment-là.
Du rock américain, en gros, des années 80, 70, ce genre de choses.
Ouais, exactement.
Ok. C'est quoi ton premier souvenir lié au rap, du coup?
Eh ben, je pense que c'était tous les... Je sais que je suis arrivé à écouter du rap vraiment hyper tardivement. Moi, les premiers souvenirs un peu que j'ai, c'est tout des... on me faisait écouter au collège des Mister You, tout ça, et j'ai des lacrymes, et j'arrivais vraiment pas à
Donc on est sur la fin des années 2000, début des années 2010, en gros, c'est ça?
Je pense que c'est ça, ouais. Et en tout cas, je trouve que c'est l'époque un peu où, genre, En termes de production, dans les synthés, il y avait des couleurs qui ne me parlaient pas du tout. Donc, j'ai eu énormément de mal à accrocher à ce moment-là.
C'était sauvage.
Ouais, de ouf. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre à ce moment-là. Et après, quand d'un coup, j'ai commencé à découvrir un peu tout ce qui était samplé, tout ça, là, j'ai retrouvé un peu la couleur que j'aimais, le côté plus analogique, plus... Et en même temps, assez crade, vu comment c'était samplé, tout ça. Et j'ai grave cherché autour de ça. Donc, en vrai, c'est ça un peu les... C'est vraiment le sampling qui m'a fait kiffer le rap au début, en vrai. Aussi bien du Mobb Deep, Nas, Fab. Mais c'était en genre, je sais pas, j'avais 15 ans, donc c'était déjà il y a hyper longtemps que c'était sorti. Et là, je me suis tout mangé, j'ai fait mes sélections parmi tous ces titres-là et je me suis vraiment pris une bonne claque. Et c'est là, après, ça a enchaîné. Je sais qu'en France, en vrai, c'était le moment de 1995. C'était en termes de sampling, c'était hyper chaud. J'ai plus de nom en tête.
Ouais, mais là comme ça, mais tu vois un peu les 995 au vu des références que avait, ça fait du sens et du lien avec les artistes américains dont tu me parlais,
ouais,
par exemple.
De ouf, ouais. Clairement.
Ou même français puisque tu citais Fab par exemple.
Ouais, de ouf.
Donc tu me disais que t'avais 15 piges, je sais plus ce que tu m'as dit, c'est ça?
Ouais. En tout cas, ce moment-là.
T'es né à la fin des années 90, début des années 2000, c'est...
Non, 96.
T'es né en 96, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Quand est-ce que tu as eu le déclic de vouloir faire de la musique?
Je pense que c'est venu vraiment tout seul. Moi, du coup, chez moi, il y avait un home studio. Et du coup, dès que mes parents n'étaient pas là ou dès que j'avais fini les cours, moi, je fonçais là-dedans. Et dès que...
Parce que tes parents étaient déjà musiciens, en fait,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, mon père, il y avait un studio dans lequel il produisait tout ça. Mais c'était un home studio en mode chez nous, en mode... Et je sais que, je sais plus, j'avais regardé l'autre fois dans mes disques durs et tout ça, c'était vraiment genre, j'avais genre 11 ans un peu quand je commençais, mais c'était vraiment que des trucs vachement pop, rock, j'essayais vraiment des trucs acoustiques, j'essayais plein de trucs, juste ça me faisait trop kiffer de pouvoir créer, et je sais qu'à partir de ce moment-là, c'était vraiment en mode, j'étais matrixé par ça. Dès que j'étais j'avais des mélodies en tête qui arrivaient, des trucs, je les notais, mais jamais je pouvais m'en souvenir. Il n'y avait pas de dictaphone, des trucs comme ça. Donc, je rentrais chez moi et je faisais que du son en mode. Enfin, ouais, ça ou guitare, j'étais en mode à fond là-dedans.
Donc, le premier instrument avec lequel tu as commencé à faire sonner de la musique, c'était la guitare, du coup?
Ouais, okay. ouais, grave. Guitare et batterie. En vrai, parce que du coup, il y avait une batterie chez moi et je me suis vite en mode, je m'amusais dessus aussi. Et guitare à fond, ouais.
À quel moment t'as franchi le pas de commencer à faire des instrus, du coup? Parce que tu me disais que t'arrivais à jouer de la batterie, de la guitare, parfois que t'écrivais des mélodies, enfin en tout cas t'essayais de t'en souvenir. Est-ce qu'il y a un moment, une espèce de déclic, un moment clé où t'as commencé à franchir le pas d'avoir envie de vraiment faire du son, de musique assistée par ordinateur?
Ouais, ou en tout cas faire du rap déjà. Voilà. Bah en vrai, comme je te dis, c'est le même moment où j'ai commencé à découvrir les samples. Et du coup, j'ai rencontré une bande de potos avec qui, il y en a certains avec qui je travaille encore... qui est d'ailleurs, j'avais commencé avec Raph, qui est le manager de Bécard actuellement. Okay. Et en vrai, je me suis retrouvé, on voulait faire du son, on cherchait des prods. Je me suis dit, bah tiens, je vais en faire, j'ai fait des compos, mais je sais que les premières prods, elles s'appelaient Instru Rap, genre avec les... Je pense avoir quelques drum kits qui sont cool dans ce délire-là, Enfin, c'était horrible. Et en vrai, du coup, c'était plus... j'ai vraiment pas commencé tout seul, ce truc-là. C'était vraiment en mode, viens, on fait du son, viens, on essaye. Ah tiens, c'est marrant. Et je découvrais en même temps. Et du coup, je me suis direct mis à faire des morceaux, à du coup aussi travailler le côté mix, travailler le côté rec, tous ces trucs-là en même temps. Et du coup, je sais que mes premiers souvenirs en mode où j'ai commencé, c'était vraiment pour faire du son et voir ce que ça disait. Donc, c'était avec... mon entourage et tout ça, en mode qui faisait tous un peu de son, qui rappait, qui faisait des trucs. Donc, et là, par contre, à ce moment-là, je sortais pas du tout ma guitare, c'était fini. C'était ok, la guitare, c'était une ancienne époque, c'était pour la. Ça marche avec le rock, mais ça marche pas dans le rap, tu vois. Donc, faut que je cherche des samples. Et du coup, j'allais chercher les trucs les plus sombres, les plus trucs, les nains, sur YouTube beaucoup. J'allais chercher des vinyles. Enfin, voilà, en vrai, je me suis direct mis dans ce truc de sampling à fond.
Alors, petite question que je ne t'avais pas posée. Tout à l'heure, il y avait une donnée temporelle, c'était ta date de naissance, mais tu as grandi où?
À Frontière Belge, en mode juste à côté de Lille, vers la ville, c'est Aluin, genre à côté de Tourcoing, Roubaix, enfin dans ce coin-là en gros.
Ok. Et donc, dans ce coin-là, est-ce qu'il y avait une scène rap qui était très vive, justement? J'ai l'impression que oui, un petit peu, puisque tu as commencé à faire des rencontres, comme tu me le disais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel environnement musical tu étais en dehors de ta maison, justement, avec les rencontres que tu as pu faire? Est-ce qu'il y avait d'autres producteurs, d'autres rappeurs que tu rencontrais, justement, à mesure de ta jeunesse qui passe, en fait?
Quand j'étais au tout début, quand j'étais encore chez mes parents, clairement pas. Okay. C'était que en vrai, tous ceux qui faisaient du son, c'était mes potos. Et enfin, tu sais, c'est un peu en mode équipe au lycée ou quoi. Et en vrai, c'est vraiment à partir du moment où je suis arrivé sur Roubaix, on a pris une coloc avec que des gars qui faisaient du son. Et là, à partir de là, on a commencé à bouger un peu sur l'île. Sur l'île, il y avait des open mic. J'ai commencé à rencontrer un peu les gens du coin. Je captais qu'il y avait, en fait, partout, ça faisait du son, même à l'île. Surtout sur l'île, en vrai. Surtout sur l'île, j'ai capté direct que ça bougeait, qu'il y avait plein de monde.
Ouais, forcément, c'est le centre névralgique de la région, donc c'est là que ça se passe, quoi.
Ouais, de ouf. Et puis du coup, faire des open mic, faire des trucs comme ça, je trouvais trop, trop stylé d'être que avec des gens qui faisaient du son. Il y avait plein de rencontres à faire. C'est comme ça que j'ai rencontré tous les gens un peu à Lille, en vrai.
Alors, c'est quoi les premières rencontres les plus cruciales pour toi, justement, à cette époque-là?
Donc là,
on est à la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, c'est quand exactement, d'ailleurs?
Ouais, c'est ça, je pense. Mmh. Je ne sais plus exactement, mais je pense que je devais avoir 18 ans. Mmh. Et en vrai, à ce moment-là, je sais qu'il y avait j'avais produit un projet en mode où j'avais tout fait, mix, nanana, pour des gars à moi. Et on a été allé en open mic et j'avais rencontré un pote, un gars qui s'appelle Balao. Mmh. Et en vrai, il m'a dit, vas-y, je suis trop chaud, on fait tout un projet ensemble, nan, nan. Et du coup, moi, j'étais vraiment en mode... pour moi, c'était trop chaud, parce que c'était vraiment l'un des gars qui rappait le mieux de tous, pour moi, à mes yeux, tu vois. Du coup, je me suis vraiment mis à... Enfin, j'ai pris ce projet à cœur, à fond, et j'ai tout produit. Et ça, c'est vraiment un peu le premier truc où je me suis retrouvé avec quelqu'un que je connaissais pas, qui avait du coup confiance en moi, entre guillemets. Et en mode, vas-y, on y va, on teste. Et puis, et on a fait un projet comme ça, un 10 titres, je pense. Et j'avais trop kiffé le fait de faire tout un projet. OK, qu'est-ce qui manque comme couleur? Qu'est-ce qu'on peut, truc? Je sais que j'avais fait, avant de commencer le projet, j'avais fait genre 40 prods. Je lui avais tout envoyé d'un coup. Et c'était en mode, j'attendais juste son appel en me disant, ah, j'aime bien celle-ci, celle-là, non, non. Mais j'avais vraiment en mode fait un gros pack pour que ça corresponde à tout un projet, avec une couleur, un truc. Voilà.
Est-ce que ce projet en question, c'est hors pur volume 1?
Ouais, c'est ça.
C'est celui-là, d'accord.
Ouais, de ouf.
Donc là, on est en 2018, donc tu as une vingtaine d'années à peu près.
Ouais, c'est ça.
OK. Alors effectivement, rentrons dans le dur de tes débuts discographiques, justement. Je trouve intéressant que tu nous aies dit que... À tes débuts en tant que producteur, tu étais très influencé par ce son un peu vintage, new-yorkais et français, parce qu'on retrouve vraiment ça justement sur ce disque de Balao.
Ouais.
Il y a vraiment des prods comme City Stade, 1947 degrés, Réservoir, où on est sur clairement du boom-bap avec beaucoup de samples de jazz, etc.
Ouais, à fond.
C'était complètement cette émulation-là.
En vrai, à ce moment-là, j'avais aussi découvert Isaiah Rashad et j'avais claqué
rappeur
ma tête.
Rappeur de Tidy, donc le label où il y a Kendrick Lamar, Schoolboy Q, etc.
Exactement. Mm-hmm. Et sur cette couleur-là, je trouvais qu'il y avait un truc effrayé et en même temps qui sonnait comme je l'aimais, tu vois.
Tu parles de Sylvia Demo, c'est ça, son premier EP, en fait
Je pense que c'est ça. J'ai plus les titres des albums et tout ça, mais j'ai plus même les titres des sons. Mais je sais que tout l'album, je l'avais poncé. Je me suis dit, il faudrait vraiment essayer de trouver cette couleur-là un peu et travailler un truc comme ça, ça marcherait bien.
Vas-y, petit fumeur de joint en herbe. Si ton quotidien t'emmerde, rends-lui le bien qui t'a piqué ta merde au quotidien. On m'a dit, donne l'heure du sale, n'attends pas l'heure du sacre et son cul de sac. On t'usera jusqu'à ce que tu sois hors d'usage.
Sur un morceau comme Réservoir, on entend une boucle de guitare. Est-ce que c'est un truc que tu avais samplé ou un truc que tu avais joué toi-même?
Attends, ça me dit un truc, mais je suis sûr et certain. Non, à ce moment-là, je suis sûr que c'est un sample.
Ok, donc ta guitare était toujours remise dans le placard.
Pour moi, à ce moment-là, c'était encore... dans du rap, ça marche pas. Tu vois, je vais le jouer, ça va être trop pop direct, ça va être trop si, ça va donner une couleur qui va pas marcher, qui va pas plaire au rap, tu vois ce que je veux dire, qui va matcher avec.
Avant qu'on enregistre cette émission, je t'ai posé une question, comme je le fais souvent d'ailleurs avec les autres invités. Est-ce qu'il y avait une production en particulier qui t'a influencé, tu vois, quelque chose que tu, en tant qu'auditeur vraiment qui a été important pour toi? Et tu m'as cité le morceau LSD d'A$AP Rocky.
Ouais.
Pourquoi ce morceau?
Et du coup, ça doit coller à peu près à la même période où, en vrai, à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a moyen de trouver de mélanger un code hyper pop rock avec une batterie hyper samplée et que ça fasse du rap, en fait. Enfin, genre, et je trouvais le mélange, il était tellement incroyable. enfin, ce morceau, je sais pas, je l'ai vraiment écouté trop de fois, genre, ça, c'est, il m'a vraiment chamboulé. Et de par les samples de voix, de par la guitare, de par la rythmique hyper lente et hyper, je sais pas, ça m'a vraiment. Et en vrai, à partir de ce moment-là, je sais que dans la même période, j'avais samplé un je sais que c'était un, j'avais fait une prod d'un morceau qui est sorti, mais j'avais samplé un tuto sur une pédale de guitare et les accords étaient typiquement hyper pop et tout. Je me suis dit, mais ça, en vrai, je pourrais le faire, je pourrais le jouer, je pourrais faire la même chose et quitte à le resampler derrière pour jouer un peu, enfin le refaire à ma manière et que ça sonne un peu rap de par le sample. Mais et du coup, c'est tout ce moment-là, c'est à peu près dans la même période. Du coup,
il y a des casques qui se sont allumés dans ta tête en disant, je peux en fait.
Je peux le faire, ouais, c'est ça. Ouais, à fond. Et en vrai, dans cette même période, j'ai commencé à bosser aussi le projet, le premier projet de Bécard, Boréal. Et pareil, en vrai, lui qui était, je sais pas, dans tous les morceaux qu'il me faisait écouter ou qui, sur lesquels il se voyait, c'était vraiment des trucs hyper musicaux. Et du coup, tout s'est enchaîné assez vite où je me suis dit, bon, bah, let's go, je vais sortir ma guitare sur. Enfin, je vais vraiment essayer de trouver une patte là-dedans parce que moi, ça me parle trop, en fait, au final. Et je peux. Faut juste trouver comment ramener les codes rap parce que maintenant, enfin à ce moment-là, je les avais bien vu que j'avais poncé ça à fond et du coup ça
a matché.
Je pense que ça a bien matché, ouais.
Tu parlais de Bécard, tu parlais de Balao. Il faut qu'on parle. Alors je sais pas si c'est un lieu en tant que tel ou mais en tout cas une entité qui est le North Face Studio.
Ouais.
Alors qu'est-ce que c'est qui faisait partie du North Face Studio parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important dans ton parcours et des noms qu'on cite justement depuis tout à l'heure en fait Balao, Bécard.
Ouais. Ouais, à fond. En vrai, on a commencé entre potes. Je t'ai dit, on avait une coloc. Et du coup, il y avait quatre rappeurs. Il y avait Sado, Balao, Salek et Bécard.
Un DJ, du coup, aussi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y avait Hagrid aussi en tant que DJ. Et du coup, on était vraiment en mode équipe. On avait fait un comment ça s'appelle, Buzz Booster, tous ensemble. Je sais qu'on avait fait ce genre de truc où vraiment on était tous en groupe, etc. Ou même sur scène, on se défendait à 6-7 et tout ça, c'était vraiment trop. Du coup, à partir de ce moment-là, après un Buzz Booster, on s'est dit, vas-y, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'on se focus un peu sur chaque entité, qu'on fasse les projets de chacun, que chacun développe sa couleur. Et moi, ça m'arrangeait et ça m'allait parce qu'il y avait vraiment ce truc de... Avec un Balao, je pouvais faire des influences chez moi qui étaient plus vers du Isaiah Rashad. Avec un Salek, justement, j'allais plus dans des couleurs... Enfin, tout ce qui était un peu plus américain à ce moment-là. Enfin, tous les projets de Travis. Je sais plus le nom du projet qui est sorti, mais celui blanc où il est en mode jouet.
Bah, c'est Rodeo.
Ouais, c'est ça.
C'est Rodeo.
Ouais, tout simplement. Et je sais que pareil, ce projet, il m'avait chamboulé. Et du coup, je pouvais donner un peu des influences comme ça parce qu'il y a aussi énormément d'influences rock là-dedans. Donc j'allais un peu vers ces couleurs-là avec Salek. J'allais plus vers un truc, je sais pas, même des influences un peu plus super tramp, un peu plus rock pop cool entre guillemets avec un Bécard. Enfin, je sais que ce moment-là, je pouvais vraiment m'amuser sur tous les trucs qui représentaient j'aimais. Et du coup, ouais, c'est ça un peu l'histoire entre guillemets de cette équipe-là. Okay. Je pense que ouais.
Qui est centrale dans ton parcours en tout cas.
Ouais. De ouf. Ce qui était hyper cool aussi, c'est que j'ai jamais réellement eu besoin au début de faire du mail, d'envoyer des prods, de chercher des rappeurs. Au final, j'avais mes gars qui étaient toujours qui squattaient chez WAM ou qui truc et on faisait du son. Et du coup, je faisais des projets et puis j'avais pas forcément... J'envoyais parfois des trucs, mais j'étais pas forcément à la recherche de ça. Moi, je me plaisais dans le fait de faire des albums, faire des projets et de... Enfin, ça m'amusait trop, enfin, ça me faisait kiffer à fond.
C'est vrai que finalement, tu as souvent été dans l'accompagnement sur le long terme, sur des disques. Alors, on en parle maintenant, comme ça nous évite d'en parler après. Mais c'est vrai que parfois, j'ai vu ton nom sur des placements. Par exemple, tu as fait du placement pour Timal.
Ouais.
Et donc, ça, c'était une des rares fois où tu as réussi à placer justement par des mails, des rencontres, ce genre de choses.
Ouais,
hein, c'est
ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est clairement après, en signant en édition.
Ouais, ok.
Du coup, j'envoyais énormément de packs à mon éditeur. Et du coup, ça me permettait de me placer sur des projets et moi me focus sur les projets sur lesquels je travaillais. Mais je fais toujours des prods au final. Ouais. Mais j'envoyais ce que j'avais de côté. Et ça, du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a des placements comme ça qui sont un peu improbables, mais qui sont trop bien, du coup. Enfin, ça, c'est trop bien.
Le quartier, je connais bien. Les gens bien, les comédiens. C'est la famille, tout pour les miens. Mon âge est fini, pisté.
Pour beaucoup de jeunes producteurs, de ta génération, même de la génération tout petit peu avant, on était surtout d'abord dans le fait de faire des prods, d'avoir une espèce d'hygiène de vie de producteur où on produit, on fait beaucoup de trucs, on envoie, oui, et on voit si ça prend ou pas. Toi, tout de suite, t'as été dans ce truc de je produis et je réalise en fait des,
ouais,
disques, quoi.
Ouais, de ouf. Mais c'est, ouais, c'est, je sais pas comment, mais je sais pas.
Pur, c'est un pur hasard, mais c'est,
ouais,
c'est,
ouais,
c'est tout, c'est assez marrant de voir ça en fait,
ouais,
dans ton parcours.
Ouais, ouais, grave. C'est vrai que j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'envoyer des prods et tout ça, et même ça, c'est, enfin, j'ai mis du temps à avoir confiance en ça, parce que d'habitude j'étais juste en studio tout le temps et je faisais du son, le gars était à côté, il aimait, il commençait à gratter, on se disait, ah, comment on peut construire ça, comment on peut structurer le truc. Enfin, j'étais direct dans cette démarche là de créer vraiment des disques et créer des, vraiment, enfin, faire des structures un peu particulières, faire des arrangements, faire des trucs, enfin, cette, pas cette vie de studio, mais cette logique, quoi,
cette,
en tout
manière
cas
de travailler là,
ouais, c'est ça,
tout à fait,
de construire de trucs.
Tu parlais de Bécart, justement. C'est quand même un artiste avec qui vous avez construit quelque chose depuis, ouais, maintenant, puisque son premier album, c'est 2019. Donc, oui, donc ça fait déjà presque 5 ans, ça fait 4 ans. Et donc, tu parlais de Boréal. Moi, je me souviens justement un tout petit peu avant Boréal, il y a un morceau qui sort qui s'appelle, alors j'imagine que c'est 22 mars, 22-03.
Oui, 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 oui.
Tu parlais d'LSD. Sur un morceau comme ça, on sent cette influence-là. On sent que, ouais, tu commences justement à trouver cette singularité que tu cherchais peut-être, quoi.
Oui, Post Malone aussi, je trouve. Enfin, clairement, moi, c'est pareil. En vrai, quand j'ai découvert aussi Post Malone, je me suis dit, ah, on peut faire ça aussi. OK, c'est bon, let's go, tu vois. Et, mais ouais, dans ce track-là, il y a vraiment cette influence, je sais pas, cette, un peu une sorte de pop indé mélangé à du rap. Ouais. En tout cas, musicalement, je parle dans les styles d'accords, dans les trucs comme ça.
Alors on gratte, on sait ce qu'on fait de mieux. Peut-être qu'on s'est trompé de mille, rien à perdre, t'es compte tes vies. Ouais, laisse tomber Dieu, les poches sont compétitives, t'es les femmes et t'es un partant qu'on fait Dieu.
Et c'est clairement ce genre de couleur qu'on a développé, je trouve, avec Bécart, avec des tracks comme Noir et Bleu. Ouais, c'est ça, Noir et Bleu.
Noir et Bleu, ouais.
Sur Boréal, où, je sais qu'il y avait des morceaux comme ça où y a déjà cette influence un peu pop et tout ça.
Moi, sur Boréal, tu parlais de Noir et Bleu, il y a un morceau que j'aime bien et que je trouve un peu significatif justement de ton parcours et de ton évolution justement en tant que producteur. C'est le morceau La mort a du goût.
Ouais.
Qui est très aérien et mélodieux, avec un piano qui est mis en reverse.
Ouais.
Des samples vocaux, un beat trap. Je trouve qu'il y a déjà plein de choses, tu vois, de tout cet héritage musical que tu as eu, que tu essayes de mettre un peu en pratique sur un morceau comme celui-là, je trouve.
Ouais, clairement. Et ben, en plus, là, pour le coup, je sais que je sais plus comment ça s'était fait, tout ça, mais en plus, c'est vraiment l'un des premiers morceaux que j'ai fait et qui avait un peu, selon moi, un peu ma couleur, qui a marché. Et donc, déjà, ça, c'était incroyable. Et ouais, je sais pas, en tout cas, sur ce genre de track, on retrouve vraiment un peu, je trouve, mon style, si je peux le dire, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, le côté, les accords sont très pop. Mais le côté reverse t'envoie vers du rap. Après, le genre de voix un peu pitchée, il y avait beaucoup ça sur Drake
tout
ou sur Kanye.
Tout à fait.
Et du coup, je sais pas, je sais que ça... Enfin ouais, ça, c'est grave représentatif de ce que je voulais faire, en tout cas, et de là où je voulais aller musicalement.
Faire nettoyer nos cœurs, c'est quand la ménage est complète. Les heures à cogiter, le cœur à trop lutter, j'y peux accrochuter. Oh yeah. Mes deux parents travaillent, ils m'ont donné tant d'amour, j'ai pas eu de crevard en cravate.
Le reverse, t'aimes bien d'ailleurs. C'est un truc que t'as
là maintenant, ça va derrière.
Ça va un petit peu mieux, c'est vrai. Mais c'est une signature. Et c'est pas une critique.
Non.
Au contraire, j'aime bien ça, lui, avoir des espèces d'éléments de signature musicale. Mais c'est un truc que t'as sous.
C'est vrai. Mais en vrai, je pense que c'était clairement ce truc de OK, les accords, ils font peut-être pas assez rap. Ouais. Si je le mets en reverse, il y a ce code-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, c'était plus des fois ce genre de.
Le reverse, je trouve que ça donne le côté un peu. Tu parlais de Drake, tu vois, le côté un peu ovi ou le côté un peu vertigineux du son.
Ouais, ouais, grave.
Qu'on retrouve peut-être un peu aussi chez Metro Boomin, ce genre de producteur. T'as l'impression d'être un peu en lévitation, quoi. Ça donne un peu ce côté-là, le reverse.
Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien. Et ça donne vraiment une sorte de sonorité assez, je sais pas, un peu plus singulière, du coup. Ça fait des trucs un peu approximatifs.
Accidenté.
Ouais, de ouf.
Et c'est vrai qu'avec Bécart, vous avez continuer, parce que là, on parlait de Boréal. Ensuite, il y a Brique Rouge qui sort l'année d'après, en 2020, mm-hmm. sur lequel tu as énormément de production aussi. Et ce que je trouve intéressant sur un disque comme Brique Rouge, c'est que tu reviens sur certains morceaux à ce côté boom bap à l'ancienne, justement.
Ouais.
Je pense à un morceau comme Aléa, un morceau ouais. comme Anxiolytique aussi, qui fait presque très rap français des années 90 de avec la boucle qui donne l'impression d'être samplée. Je sais pas si c'était vraiment un sample.
Ouais,
c'est un sample, ouais. tu vois. Donc, justement, je trouve que il y a encore plus, peut-être consciemment ou non, chez toi et peut-être aussi chez Bécart sur les demandes qu'il a, d'avoir cette espèce d'héritage rap ouais. d'une certaine époque, tu vois, à essayer de réactualiser, quoi.
Ouais, clairement. Bah, déjà, il vient de là à fond dans ce qu'il écoute, etc. Et ouais, je sais pas, même moi, ça me parle trop. Je trouve qu'en termes de grain, il y a vraiment un truc, je trouve que dans ce genre de style et dans ce genre de prod, t'as vraiment un truc qui est un peu intemporel où tu peux, en vrai, je pense que des tracks comme Aléa, je peux vraiment me l'écouter jusqu'à... Enfin, genre, encore maintenant, je trouve qu'il est frais, entre guillemets. Genre, je sais pas, il n'y a pas de truc de dépassé ou quoi. Il n'y a pas une histoire de code de lié à une époque ouais. non plus trop.
Il y a un côté plus intemporel, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Et je pense que c'est aussi vraiment dans la... Comme c'est des drums qui sonnent un peu acoustiques, mais ouais. qui sont crades, mm-hmm. je trouve que ça lui donne vraiment un grain, je sais pas, ça donne vraiment des couilles en plus. Genre, ça donne vraiment un truc, je sais pas...
Un truc plus péchu, quoi.
Ouais, alors que la mélodie est un peu gentillette. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je trouve que ça contraste et tout ça, et ça marche bien entre les deux dans ce genre de track.
Ce serait quoi ta production préférée sur ce disque?
Oh. Sur Brique Rouge, du coup.
Ouais.
C'était Vagabond.
Mis le soleil à l'estélie, au milieu du ciel, un satellite. J'roule en ville, la vie, j'me dis la mienne.
Son pareil, très planant. Mm-hmm. Je sais pas, mais je sais que c'est le genre de vibe que j'adore, ce genre d'univers un peu avec beaucoup d'effets dans le mix aussi, beaucoup d'arrangements. Je sais pas, ouais, clairement, je pense que c'est le genre de son avec pas mal de mélotron, des sonorités un peu comme ça qui sonnent limite Beatles.
Ouais, ouais.
Clairement.
Ok. 2020, il y a deux titres sur lesquels j'aimerais qu'on vienne. Il y en a un qui est un peu une curiosité, mais que je trouve intéressant. Tu as produit pour un rappeur qui s'appelle E-Will.
Ouais.
Et il y a un morceau qui s'appelle Encore Une, qui est une réadaptation de les bidons veulent le guidon.
C'est vrai, exact. Ouais.
De Time Bomb.
Ouais.
Mais façon trap, quoi.
Ouais.
Les bidons veulent le guidon, c'est un fait. Mais tout ce que nous t'amènerons est à fait. À coup de pioche, un trésor pour les proches. Pour la mif et les mioches, tout ça dans la roche est gravé.
Prod là, carrément, elle était dans le... Je t'avais parlé tout à l'heure du pack de prod de 40 prod pour ouais. Balao. Okay. Elle était dedans. Je me suis dit, tiens, si je reprenais un sample un peu de cette époque là et je le revisite un peu plus en mode différent. Donc c'était clairement. Et j'adorais le morceau de base et le sample aussi, il me rendait ouf. Du coup, en vrai, l'idée, elle était venue de là et je sais qu'il a. Enfin, il a kiffé direct le délire parce que du coup, pareil, je pense qu'il y a dû se manger. Enfin, il connaissait très fort le morceau. Et du coup, ouais, c'était franchement, moi, c'était vraiment une. Je pense que de base, j'avais sûrement capté le sample et je me suis dit, tiens, ça me dit un truc, mais je sais plus d'où je le connais. Et du coup, j'avais cherché sur WooSample, ça c'est trop bien.
Ben oui.
Et du coup, c'est là où j'avais capté le son et du coup, j'avais appelé sûrement la prod par le même nom ou un truc comme ça pour faire un peu clin d'œil. Ah, et du coup, ça avait traîné comme ça dans mon ordi pendant hyper longtemps et puis il l'avait prise. Pareil, qui est un rappeur du Nord, et oui,
Et donc, je parlais d'un autre morceau. Ça, c'est pas un morceau qui est une curiosité. C'est presque un morceau qui est devenu un peu un hymne pour le rappeur en question. C'est le morceau ASB de Limsa Dolnay, qui est du coup en dehors un peu de ce cercle qu'on décrivait tout à l'heure d'artistes proches et souvent originaires du même coin que toi. Comment s'est fait la connexion avec Limsa?
En vrai, on avait un truc sur Paris chez une radio avec Bécart et Balao. Il était sur la même radio. Je sais plus, c'était une émission. C'était juste avant le Covid où une période un peu comme ça. Et après, on s'est capté à la niche, là où ils vont tout le temps de tout le monde. Là. Et en vrai, on s'est capté en mode tiens, envoie-moi des trucs et tout ça. Et du coup, dedans, il y avait ASB. Je sais pas pourquoi je lui ai envoyé. Je pense qu'elle, pour moi, elle dénotait de ouf, mais j'aimais trop cette prod. Donc, je me suis dit, je l'envoie un peu quand même et on sait jamais. Et au final, c'est celle-là qu'il a prise et il m'a envoyé direct. J'ai grave kiffé le morceau, justement. Enfin, je trouvais ça... Le contraste marche hyper bien. Et je trouve que je ne l'avais jamais entendu sur ce genre de track. Et qu'en même temps, je ne sais pas, il se l'est vraiment approprié. Du coup, ça donne vraiment un truc singulier. Enfin, le contraste entre ce côté hyper planant, hyper, je ne sais pas, Je trouve, en tout cas, il y a vraiment une petite magie, ouais. sur ce son.
C'est vrai que cette production, elle est très aérienne, très épurée, avec ces petites notes aussi de synthé qu'on entend ouais. de temps en temps, qui sont là, mais qui ne sont pas trop ouais, présentes ouais. en même temps. Et effectivement, le rap de Limsa, avec ouais. cet humour pin sans rire,
c'est ça.
Et sa manière d'interpréter
très dessus. Brut aussi.
Exactement. Ouais. Et lui, oui, en plus, voilà, sa manière d'interpréter où il chantonne un petit peu, etc. Je trouve qu'il y a une magie un peu sur
ouais,
ce son-là.
Ouais, de ouf. Parce que justement, quand il me l'avait envoyé, moi, j'imaginais direct un truc, limite mettre beaucoup d'effets, beaucoup de delay, de trucs, de nanin. J'avais essayé, et en vrai, ça, on perdait un peu ce enfin, on perdait le côté brut, tout droit, hyper, je sais pas, il y avait, là, il y a vraiment, enfin, tout y est, en vrai, il y a vraiment, il y a juste une lead, hop, ça va tout droit, tout le long du morceau, c'est trop bien, en vrai. Ouais, c'est vrai que ce morceau, quand il me l'a envoyé, j'étais vraiment content.
ASB rebeu noir soudé quand y'a le romaine, quand y'a la canne. Olney sud c'est Manhattan, un peu de cheat, un peu de beurre et c'est pas ma canne. ASB nique le gouvernement, nique sa grue et ses pecs.
On arrive ensuite en 2021 où sort un nouveau disque de Bekar qui s'appelle Mira. Je me souviens aussi d'un morceau qui est sorti avant qui s'appelle Chromé.
Mm-hmm.
Alors pour resituer, 2021, on est après le Covid.
Okay,
on est surtout après la vague drill qui arrive en France, qui est repassée par Londres, puis par New York avec Pox Move, ouais. etc. Donc voilà, la drill s'installe en France, et c'est rythmique drill très particulière. Et moi, il y a un truc que j'aime bien avec Chromé, c'est qu'il y a une boucle sombre et crasseuse au début. T'as l'impression que ça va commencer comme un truc un peu boomba,
ouais.
façon Griselda par exemple. Et boum, t'as un truc de
ouais.
drill qui arrive derrière.
Ouais, à fond. Ben, en vrai, je sais qu'à un moment, on se disait, tiens, ça pourrait être bien. Moi, je voulais pas en faire de drill. Je sais que j'essayais parce que, vas-y, ça m'amusait et tout
bien
ça.
Sûr.
Mais ça me... Je sais pas, dans le groove, il y a un truc que j'aime pas forcément ou en tout cas qui me... Je sais pas, dans le... Ouais, c'est vraiment une histoire de groove et de ressenti. Mmh. Et j'avais pas envie de me mettre là-dedans. Et il y avait bossé un morceau, genre sur un type beat et tout ça, en mode... vraiment sur un truc drill, ça marchait de ouf, mais je me suis dit faut qu'on fasse un truc drill mais vraiment différent, faut vraiment essayer de dénoter et d'apporter quelque chose parce que enfin il y en a 10 milliards qui sortent,
c'est pour prendre des violons stridents dans la pop smoke,
ouais.
ça sert à rien,
ouais c'est ouais. ça. Et du coup en vrai ça a été vraiment très vite sur ce titre, en mode direct on est parti, je me suis dit je vais faire un truc, faut que ça sonne sample à fond, faut que ça sonne très crade. Et mais avec une ouverture un peu au refrain, les accords qui changent pour apporter un peu le côté plus mélancolique et aussi plus mélodieux mm-hmm. qu'à Bekar. Mm-hmm. Et du coup, je trouve que le contraste, il marche vraiment bien sur ce titre entre le côté, les couplets très rap, très sombres et le refrain qui s'ouvre un petit peu musicalement.
J'ai de la beuh pour dormir, j'ai du pilon pour taffer, dans mon labo toute la nuit, dans mon verre pas du café, c'est l'enfer dans la zone. Là pour faire de la zik, pas l'enfer de la zone, je vais réserver l'assiette.
J'ai vraiment l'impression que Bekar, c'est parfois un peu ton laboratoire à idées, en fait, la musique que tu fais avec Bekar. Peut-être qu'encore plus avec d'autres artistes, un peu avec Ben PLG, on va l'occasion de voir aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que Bekar, à chaque fois, c'est un peu un labo pour toi. Quoi.
Ouais, de ouf. Mais surtout, ce qui est trop bien, c'est que je pense que dans les influences, on a plein de trucs qui sont très éloignés et plein de trucs en commun en même temps. Et du coup, je sais que je peux. Enfin. Tous mes trucs les plus bizarres, je lui envoie et en vrai, on s'entend.
Atypique quoi.
Ouais. Et je sais qu'à chaque fois, on n'a pas peur de oser des trucs, je sais pas, mais même, enfin, on essaye vraiment, vraiment beaucoup de délires différents, de rythmiques, de ci, de ça. Et du coup, en vrai, c'est ça qui m'amuse. Et je pense que moi, comme lui, on n'aime vraiment pas l'idée de refaire un morceau, de faire un réédit d'un autre. C'est un peu inintéressant, du coup, dans une carrière un peu. Et même moi, en tant que producteur, ça me fait chier de reprendre les mêmes codes que j'avais pris dans telle prod ou telle-ci. Donc, en vrai, je pense que c'est là où on se retrouve et on s'amuse le plus, en vrai, en studio, à... Tiens, qu'est-ce qu'on peut essayer de différent? Qu'est-ce qu'on peut mélanger? Parce qu'en vrai, là, au jour d'aujourd'hui, c'est que ça. C'est des mélanges d'influences, de codes et tout ça. Donc, c'est là où t'as vraiment cette impression de créer quand t'es en studio, tu vois. Quand tu mélanges des trucs qui devraient pas être mélangés.
Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il est aussi force de proposition à te dire « Tiens, j'aimerais bien essayer ça », que toi aussi, parfois, de dire « Tiens, et si toi, t'allais dans cette direction-là, j'ai une idée, quoi. »
Ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment tous les deux, en mode de... Même, je sais pas, je sais que des... Enfin, ouais, c'est vraiment des échanges de... On s'envoie beaucoup de morceaux, où on se fait des playlists de sons, et puis on se dit « Ah, tiens, là, si on mélange celui-là avec celui-là, peut-être que truc... » Enfin, ouais, c'est vraiment en mode de... ça va dans tous les sens, ça inspire aussi, en vrai, tout le...
Et parallèlement à ça, là, on parle de Bekar, on va parler de Ben après. Mais c'est vrai que sur cette année 2021, il y a aussi Hors Pur volume 2 de Balao qui sort. Et pour ceux qui ne te connaîtraient qu'à travers ton travail pour, enfin en tout cas avec Ben PLG, Bécard, éventuellement aussi avec Josman, on va en parler. Écouter un disque comme celui de Balao, d'un seul coup, on voit que c'est une autre palette en fait de ta musique.
Ouais.
Puisqu'on est soit dans la trappe très sombre, soit dans des choses beaucoup plus ensoleillées, peut-être un peu, moi j'appelle ça la bubble trap, tu sais, un petit peu à la Lil Uzi Vert, ce genre de choses.
Ouais. Bref,
des choses beaucoup plus enjouées en fait, moins mélancolique quoi.
Ouais, de ouf. Ben, je pense que c'est ça aussi qui m'a toujours plu, c'est que je pense que travailler toute une année ou même, je sais pas, pendant une période de 6 mois sur un même projet, j'ai vraiment besoin d'aller bosser avec d'autres personnes pour... déjà, ça m'inspire et je peux aussi utiliser d'autres facettes de mes inspis, essayer d'autres choses et tout ça. Parce que je pense sinon, à un moment, tu tournes en rond. Et du coup, c'est là où c'était un peu... J'avais différents projets sur lesquels je pouvais... là-dessus, OK, là, je suis dans tel délire. Ouais. Trop bien, je me retrouve sur cette... Je trouve que ça m'animait vraiment de pouvoir changer comme ça du tout au tout. Mais en même temps, je trouve que ça dénote pas, entre guillemets, de ce que je fais. On peut ressentir des codes.
Bien sûr. Moi, je pense à un morceau comme Game of Thrones, par exemple.
Ouais.
Qui est un morceau assez vénère, tu sais.
Ouais, de ouf.
Je trouve que dans la manière de traiter la texture du morceau, il y a presque un côté un peu rock aussi.
Ouais, tu vois, sur ce track-là, ouais. De ouf, à tu fond. Ouais, il y a un truc vraiment électrique.
C'est
vraiment.
Ça.
Ouais, de ouf. Mais comme je sais plus comment il s'appelle, c'est le dernier morceau sur Hors Pur volume 2.
Tête cassée.
Ouais, c'est ça. Ben là, pour le coup, on retrouve vraiment ce côté hyper... hyper soul, mais en même temps hyper musical. Mm-hmm. Et du coup, je trouve que c'est le genre de track en mode qui... Enfin, pareil, qui, je sais pas, où on ressent vraiment ma couleur.
Oui,
côté
un peu presque batterie live.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ouais, de ouf. Ouais. Mais en même temps, on peut sampler. Enfin, genre, elle fait pas... Ouais.
Elle fait pas entièrement batterie de studio, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, je le disais, il y a Mira aussi qui sort en 2021. Un peu la même question que je t'ai posée tout à l'heure pour les disques précédents, notamment Brick Rouge. Est-ce qu'il y a une production en particulier sur le travail que vous avez eu avec Bécard qui te fait dire on touche quelque chose sur ce disque-là, tu vois, sur la direction musicale qu'on a voulu prendre.
Sur Mira Sierra.
Ouais.
Ouais, en vrai, sur des morceaux comme Dehors, par exemple, ou Un matelas sur le sol.
Dehors, je le trouve très beau, ce morceau.
Ouais, carrément. D'ailleurs, il y a les voix de ma mère dessus.
Et les voix de ta mère. Parce que justement, je voulais qu'on parle des voix, mais OK, d'accord. Les voix aussi, de ta mère, c'est cool, ça.
Il n'y a pas uniquement que ma mère.
Il y a des chœurs dessus, quoi. Ouais,
ouais, c'est ça. Et, mais ouais, Dehors, en vrai, ça, en studio, on avait quasiment fini l'album. C'était le dernier morceau. On fait ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter On avait je pense qu'il y a 10 titres. Ouais. On avait les 10 titres, enfin les 9 titres du coup finis. Et il nous manquait un truc. Beck, ça faisait, je sais pas, 2 semaines, il disait, il manque un son. Et là, ça a été hyper vite. Vraiment, je pense qu'on rendait genre 2. Je sais qu'on a fait le son le vendredi et le lundi, on a envoyé au mastering. Et on s'est dit, en studio, je lui ai dit direct, viens, on met des voix, on gonfle le truc, on fait vraiment un truc un peu à la... j'ai pas forcément de rêve dans ce délire-là, mais je sais que les trucs vachement... dans un esprit gospel et tout ça, il y a un truc de vraiment fort et de vraiment, je sais pas, qui est touchant en même temps.
Tu parlais de Kanye West à un moment
clairement.
Kanye West, il aime bien faire ça sur
le morceau. Ouais, de ouf. Et je sais qu'il y avait un son qui s'appelle Still Mobbin. Still Mobbin. Fuck what heck I say. Qui est un peu dans cette esthétique-là et je voulais depuis trop longtemps faire un son comme ça. Et du coup, le lendemain, enfin, on a fait le morceau. Le lendemain, direct, j'ai appelé un de mes potos qui bossait dans une chorale de gospel. Et du coup, on est allé. C'est ça, exactement. Et du coup, on est parti en studio direct le lendemain. Le soir même, je faisais le mix. Le surlendemain, ma mère passait chez moi. Je lui dis, ah tiens, il y a peut-être moyen, essaye de trucs et tout ça. Et au final, c'est des voix que j'ai mis à différents moments parce qu'elle n'a pas forcément une voix très. Dans une esthétique gospel, justement, plus une voix fine. Mm-hmm. Et du coup, je pouvais un peu jouer sur tout au long du morceau, dans la dynamique mm-hmm. un peu du truc. Et du coup, c'était trop marrant. Et ça s'est vraiment fait hyper instinctivement, hyper vite. Genre vraiment, j'ai envoyé le track à un de mes potos batteurs qui m'a envoyé des batteries. Enfin, vraiment, tout ce week-end-là, ça s'est...
Non, vas-y, je t'assure.
Tout s'est fait vraiment en mode hyper vite. Et le lundi, on envoyait, c'était fait... c'était marrant pour le coup, même en plus, du coup, on était en studio, on finissait le morceau le vendredi, et moi, j'avais rien, je voulais pas faire écouter à Beck tant que tout n'y était pas. Ouais. Et du coup, je lui ai envoyé le son mixé avec toutes les voix, la batterie, tout était structuré, c'était marrant comme.
Aller jusqu'au bout de l'idée, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et dehors, les bras sont guettes, on dirait que je passe un test, je pense c'est différent. Dehors les bras ça me guette, comme si j'étais quelqu'un. J'suis pas assez différent, j'suis pas assez différent.
Et c'est vrai qu'effectivement, à partir de Mira, je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être vous montez en termes de niveau d'ambition musicalement avec Bécard sur ce disque, parce que même quand on pense à un morceau comme Opinel avec sa rythmique triolet rock, tu vois, avec ce piano texturé. Même un morceau comme Yamamoto qui est aussi plus élevé en termes de BPM, où il y a ce côté un peu presque rap français du début des années 2000, etc. Et je trouve que il y a un niveau d'ambition qui commence à monter aussi dans vos idées musicales, quoi.
Ouais, grave. Bah, je pense au fur et à mesure, on se disait qu'est-ce qu'on peut pousser, qu'est-ce qu'on peut développer. En même temps, t'as pas envie d'aller trop loin parce que tu veux, enfin, faut pas non plus tomber dans de la branlette et non plus
à faire un équilibre à trouver,
musiciens et tout ça. Là, c'est un peu too much. Et je pense que là-dessus, même sur des morceaux comme La Branche, on s'est dit tiens, il y a un gars sur l'île, il fait du sax. Qu'est-ce que ça raconte si on le ramène en studio et on se met un peu comme cadre. Il faut du sax sur le morceau. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je pense qu'on se mettait un peu des challenges comme ça et du coup, automatiquement, on allait chercher ailleurs et on proposait d'autres choses.
Et ça sent aussi sur un morceau, je trouve, comme 59 dB.
Ouais.
C'est avec ZKR, si je ne dis pas de bêtises. Qui est un morceau rap très simple dans la forme.
Ouais.
Mais avec aussi quelque chose d'un peu symphonique dans le sample, si c'en est un d'ailleurs.
Ouais,
je sais pas.
Ouais, c'est un. Le piano, non. Mais le violon, oui.
Le violon, c'est ça, tu vois. Comment ça sonne, je trouve qu'il y a un côté très rap beaucoup plus direct. Tu vois. Sans que ça sonne bateau, tu vois. Je trouve qu'il y a un effort là-dessus, quoi.
Ouais, je pense que j'essaye vraiment. Si je peux le dire comme ça, mais genre d'essayer de garder un côté un peu classe. Mm-hmm. Je trouve que déjà le côté sampling, il apporte cette couleur-là, il apporte ce côté crade qui apporte une chaleur déjà. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment dans mélodiquement qu'il se passe quelque chose. Je saurais pas exactement expliquer, mais ouais, j'adore vraiment ce morceau, je l'aime vraiment bien.
Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille, on vend pas de rêve à travers la vitrine. Y'a des briques cachées sous les débris. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on écrit. Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille. Par chez moi, c'est pas les oiseaux qui chantent.
T'as croisé la route et tu croises la route depuis quelques temps maintenant de d'autres producteurs et parfois de musiciens. Les producteurs sont des musiciens, qu'on s'entende bien, mais disons de gens qui savent jouer des instruments de musique.
Ouais, ouais.
J'aimerais qu'on fasse un petit jeu, toi et moi. Je vais te citer les noms, justement, de ces producteurs. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'eux ont comme qualité. Qui te permet peut-être toi de compenser des choses que tu n'as pas.
Ouais.
Tu vois. Bon, déjà, un dont on va parler après parce qu'il a beaucoup travaillé avec BNPLG, c'est Murer.
Ouais.
C'est quoi un petit peu comment vous vous complétez avec Murer?
Il est déjà c'est un humain de ouf, il est trop tigeant, trop cool. Et je pense que c'est hyper marrant parce qu'il est il écoute vraiment pas de ce qui se fait actuellement. Et du coup, il a des codes complètement différents. Et du coup, je trouve qu'on peut vraiment mélanger des choses qui ne se mélangeraient pas du tout. Et musicalement, ça marche hyper bien. Dans les styles d'accords, il va aller chercher des choses qu'on ne retrouve vraiment pas dans le rap. Donc, ça va, je trouve que c'est là où ça force, je trouve, mélodiquement, même dans les textures, il va chercher vraiment loin. Je pense que c'est vraiment dans ce truc-là où moi, je vais arriver un peu plus... Justement, quand je fais du son avec lui, je vais arriver plus avec un peu de code rap pour rebasculer le track en mode et l'amener un peu dans un truc un peu plus... ouais, plus rap, en vrai, dans les codes, de parler drum ou par-ci ou par-ça. Mais je pense que c'est vraiment là sa force.
À Murer.
Ouais.
Le caméléon.
Pareil. En vrai, il écoute pas du tout de rap, il est dans le jazz, et enfin il fait des morceaux pop, il fait des, enfin il est dans 10 000, enfin il est dans 10 000 styles, tout, enfin à part le rap, en vrai dans ce qu'il écoute et tout ça. Et du coup c'est trop marrant parce que moi, enfin là pour le coup, quand je le capte en studio, c'est vraiment dans l'idée de faire de ramener des mélodies qu'on trouve vraiment pas dans le rap. Et du coup je trouve que ça ramène vraiment une fraîcheur. Je pense à des morceaux comme Soleil s'allume de Bécard, ou genre la mélodie, c'est vraiment des mélodies hyper... elle est vraiment singulière, elle fait très pop, limite un peu à la Coldplay. Et je trouve que justement, le contraste marche bien dans ce genre de cas. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai fait vraiment beaucoup de morceaux avec lui.
En fait, c'est quoi, en fait, lui ? Il te donne des mélodies qui sont bouclées sur, je sais pas, 4 ou 8 mesures, et après, toi, tu travailles ces textures-là. Comment ça se passe, en fait?
Non, plus souvent, on le fait en studio directement.
Ok, d'accord.
On est juste à deux, et on se fait écouter du son, on parle et tout ça, et puis là, d'un coup, on met quelques trucs, et puis c'est très rare. En vrai, je bosse rarement à partir de loops. J'aime vraiment bien le fait d'être sur le moment.
Ok,
ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas ramener un petit accord un peu comme ci, comme ça? Je pense que, bon, en vrai, tout le temps, ça se fait de cette manière, en mode à la cool, tu vois.
Guapo du Soleil.
Ouais, j'ai bossé qu'une fois avec lui.
J'avais cru voir plus de fois, c'est pour ça.
Je pense. Ouais, c'est ça. Deux fois, exact. Notamment sur Je roule de Beck. Et c'est pareil, ça avait bien marché parce que à ce moment-là, j'étais sur les. Là, c'était surtout rythmiquement. Il apportait des idées vachement plus fraîches et actuelles, là où. C'était une période où j'allais un peu chercher trop loin et j'essayais des textures de drum, un peu de trucs et tout ça. Et là, du coup, ça ramenait un peu une fraîcheur à ce moment-là. Et même moi, je me suis dit, faut que je travaille ça, faut pas que j'aille trop loin non plus, des fois, rythmiquement. Et du coup, je sais que ça m'a, même dans le côté structure de son, il est très efficace, très tout droit, mais en le faisant bien. Et du coup, je trouve ça trop. J'aime grave bosser avec lui.
Peut-être parce qu'il est un peu plus jeune que toi aussi, donc il a peut-être cette spontanéité. Ouais, c'est ça. Ouais.
Enfin, mais ouais, de ouf.
Alors, ça, c'est un nom que j'ai vu récemment, Paul Steen.
Ouais. Et ben, saxophoniste, du coup, qui est sur la branche.
Donc c'est le saxophoniste, d'accord.
Ouais, exactement. Et en vrai, il fait de la flûte et du sax. Et je sais pas, je trouve que c'est une. Là, du coup, comme j'avais plusieurs projets un peu en cours sur lesquels je travaillais, je travaillais un peu la réal des albums, je trouvais ça trop bien d'utiliser un peu cette cartouche, un peu sax, parce que d'un coup, tu te retrouves en... Moi, je trouve, des fois, en mode ce côté un peu cadre où t'es en studio, où tu sais que, ok, bah là, on doit utiliser ça, c'est un peu le challenge du jour. Je trouve que c'est intéressant parce que tu te dis, ok, tel artiste est dans tel délire, comment on peut l'amener sur cette couleur? Et du coup, en vrai, ça s'est fait clairement. Ça s'est fait sur plein de morceaux comme ça. Mm-hmm. Et du coup, ça marche assez bien, je trouve. Même si c'est des instruments qui sont assez. Enfin, qui sont très forts en caractère, qui prennent beaucoup de place sur un morceau. Donc, il faut trouver comment pas le rendre non plus Jimmy Sax. Comment une flûte pas le rendre non plus. Je sais pas, le son de futur, là.
Maskov.
Faut ramener quelque chose d'autre. Et je sais que, par exemple, on avait fait un son pour Ben PLG magnifique avec de la flûte. Et je trouve qu'il y a un truc un peu, je sais pas, ramener autre chose avec ces instruments qui sont, qui peuvent avoir des connotations un peu comme ci ou comme ça.
À la base, lever pour un smic, c'est une fierté. Dorénavant, arracher le sol, c'est une certitude. Je peux plus faire demi-tour, je me sens cerné. Là, c'est le prolétariat avec de l'attitude. Sous les tours où les enfants s'élèvent tout seuls. On a mangé des coups qu'on digère, on recrache la douceur. Le petit fou le seum, viens voir deux minutes en bas. On va te montrer c'est que dans la tête la douleur.
Le mélange entre cette flûte un peu gentillette, un peu, je sais pas, un peu j'aurais pas le nom. Ouais, disons ça, avec le synthé qui est vraiment méchant et tout ça. Le contraste est grave intéressant entre les deux. Il y a un truc orchestral mais en même temps un peu synthétique.
Alors justement, on parle de Ben PLG, ça fait plusieurs fois que je le cite, et justement, on vient de parler d'un morceau de lui. Comment vous arrivez à travailler ensemble ?
Eh ben, en vrai, en étant de Lille, tous les deux, moi, j'avoue que j'aime vraiment bien le fait de bosser avec la région. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que je me connecte assez facilement avec... Enfin, je sais pas, dans la manière de penser, on a un peu les mêmes rêves, on va facilement, je sais pas, mais finir une session et aller se boire un verre après pour parler de tout sauf de son. Enfin, je trouve cette mentale est vraiment cool. Et en vrai, on s'est retrouvés à faire du son. On a fait une session, deux sessions. Et la deuxième session qu'on a fait, on a fait le morceau Parcours Accidenté.
Okay.
Et du coup, directement, je me suis dit, ah tiens, je pourrais aussi développer telle couleur que j'aime chez moi. Et que on a fait plein de sons différents et... Je sais que pareil, il aime vraiment bien oser des choses, tester des mélanges un peu qui ne devraient pas se faire. Et du coup, ça, je sais pas, ça marche aussi vraiment bien. Et je kiffe trop le mood un peu en studio, tout ça. C'est vraiment dans la recherche, on se casse vraiment la tête, c'est cool.
Ah, justement, c'est intéressant que tu cites ce morceau Parcours Accidenté, parce que c'est vrai que ça débute avec un breakbeat qui est un peu étouffé. Et ensuite, il y a la mélodie à la guitare, justement ton instrument. Donc... Ensuite, un beat trap dessus. Enfin bref, il y a vraiment un travail de mélange et de contraste. Tu parlais de ça dans
grave.
Précédent. Il y a vraiment ça, quoi.
Ouais. Et pour le coup, en plus, ce morceau, quand on l'a fini, on était vraiment en mode, bon, on ne sait pas du tout ce qu'on a fait. Je pense que c'est pas ouf. Vas-y, on parle d'autre chose et vas-y, tant pis. Et je sais que son manager, il se l'était vraiment pris. Il nous avait dit, oh, non, mais arrêtez, c'est trop bien. L'album, il va s'appeler comme ça. C'est bon. Enfin, tu vois, vraiment en mode,
ça donnait le là, quoi.
Cool. Ouais, c'est ça. Et du coup, même moi, je me suis dit, ah, ok, je peux aller dans ce genre de style avec Ben, tu vois, et du coup c'était vraiment cool.
Parcours accidenté. J'attends que l'horizon s'embellisse. La monnaie pour soigner nos rêves. La monnaie pour soigner nos esprits.
Je trouvais ça cool le mélange entre la drum assez trap classique et ce truc un peu breakbeat qui fait. Je sais pas, qui donne cette couleur un peu rap au final, parce que je pense que sans ça, direct, on a une autre. Enfin, c'est un autre style de son, je trouve. Enfin, ça te donne direct des codes là où on n'a pas envie d'aller, forcément, je trouve.
Est-ce que le fait d'avoir ressorti ta guitare à un moment donné, donc là, on revient quelques années un petit peu avant, hein, mais ça va quand même participer à ça, le fait d'arriver à un morceau comme celui-là, un album comme celui-là, ça t'a fait progresser à la guitare, à force d'en jouer plus régulièrement pour nourrir tes morceaux. Est-ce que tu penses que ça t'a fait progresser aussi?
En vrai, un peu. Mais en vrai, je pense que je jouais mieux à l'époque. Parce qu'à l'époque, je jouais un peu avec des groupes.
Ouais, okay,
j'étais en mode, je faisais pas mal de solos, de trucs, nan, nan. Je pense que je jouais bien plus de guitare. Alors que là, maintenant, je la sors. Je fais, je check, nan, nan. Et je pense que automatiquement, j'en joue moins qu'avant. Donc, j'ai moins les mêmes réflexes. Mais après, là, au jour d'aujourd'hui, j'en fais vraiment un petit peu plus. Donc, pareil, ça... Enfin, je pense par contre, je me casse vraiment plus la tête sur le fait d'aller chercher des pédales de guitare, de tel reverb, tel truc, de nanan. J'achète pas mal de trucs dans ce délire-là pour par contre trouver vraiment le son de guitare que je cherche. Mais par contre, je pense pas avoir forcément tant progressé en tant que guitariste.
Ah, ok. C'est presque un outil de création plus qu'un instrument de musique dans le sens de la performance.
C'est ça, surtout qu'en vrai, j'aime vraiment bien jouer. Les mélodies que je joue en général, j'aime bien les jouer un peu. Je les joue tous un peu à part pour les resampler derrière, pour essayer d'avoir un peu ce grain qui n'est pas... j'ai pas envie que ça fasse vraiment ce truc jouer. Je veux pas... Enfin, ça, un peu on a ce ressenti-là quand même parce que c'est jouer dans tous les cas. Mais juste... je prends un peu chaque suite d'accords différemment et peut-être que des fois, au final, je vais les échanger entre elles. Et du coup, ça crée... Enfin, on a ce truc un peu découpé légèrement, tu vois, qui...
Qui fait très rap, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ce serait quoi ta production préférée sur Parcours Accidenté?
Bah, en vrai, dans les tracks que j'ai fait avec Ben, c'est plus sur... comment il s'appelle? Sur Réalité Rap Musique. Et c'est wesh, en vrai.
Ah, ok, ouais.
Je suis à un mois de la sortie de mon album, à trois mois des portes de la trentaine. Tout est amertume dans les arômes, donc j'avance même si je sais pas où je vais. Y'a des gens que je connais pas qui m'adorent, des gens que j'aime que je déçois encore une fois. Dans le silence, mais j'entends encore une voix. Écran noir, mais j'espère toujours une fin. J'espère encore...
Y'a un truc un peu, dans la rythmique, un peu two-step, mais en même temps, pas du tout, mais un peu acoustique. La mélodie, elle change toutes les huit mesures. enfin il y a un truc vraiment qui s'envole jusqu'au bout du morceau. Je sais pas, dans la construction, je l'aime trop. Comment ça s'est fait, c'était hyper naturel. Je sais pas, ce son vraiment, il fait partie de mes préfs que j'ai produits, clairement.
Ok. Puisque tu parlais de réalité rap musique, on arrive en 2022 et on arrive aussi à l'album du coup de Josman, M.A.M.
Oui.
Sur lequel donc tu coproduis l'intro.
Oui.
Avec Crayon et avec des arrangements des idiots, c'est ça?
C'est ça.
Et le morceau Mort ce soir.
Ouais.
Comment tu es arrivé, pardon, à travailler avec Josman justement?
Eh ben là pour le coup, c'était le premier morceau sur lequel il a bossé, c'était Mort ce soir, qui était déjà un morceau qui était en deux parties. La prod était exactement pareille et je me suis dit, il y a juste, c'est trop bien de travailler une prod en deux parties, mais il y a personne qui va, enfin, faut vraiment, déjà, faut que
la structure du morceau, elle était déjà comme ça.
Intact, pareil, okay. Exactement pareil. Et la rythmique au début, je me dis déjà, là, je vais freiner peut-être 90% des rappeurs. Ils vont écouter ça en mode, mais
qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est bien, moi, je l'avais dans mon ordi. Je l'ai kiffé, mais c'est tout.
Pas de sourire sur mes lèvres, chaque journée qui se lève. Pas sûr de pouvoir donner vie à mes rêves. La justice est en grève, je regarde la planète qui crève. Mes sentiments sont morts ce soir.
Et je l'avais envoyé quand même à mon éditeur, mais je me suis dit, bon, comme ça, je sais pas, peut-être il va l'écouter en prenant le métro, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ils l'ont prise, donc c'était trop bien. Et derrière, ils étaient sur la fin du projet et ils m'ont demandé des prods. Et du coup, c'est là où j'avais bossé une sorte de début de maquette un peu qui était celle de l'intro. Et c'est comme ça que ça a enchaîné sur l'intro, en tout cas.
D'accord. Il y a un autre artiste dont tu as fait la rencontre et que tu as accompagné là, ces dernières années, c'est Giorgio.
Ouais.
Puisque en 2021, il sort Sacré.
Oui.
Et quelques temps plus tard, il sort Ciel enflammé, sur lequel tu produis. Comment s'est fait la connexion et c'était quoi un peu les intentions musicales avec Giorgio, justement, sur ce disque?
Sur Ciel enflammé, tu parles? Eh ben, en vrai, la connexion, elle s'est faite... par Bécard. On a fait le feat Bécard-Giorgio en mai. Et directement, lui, il y avait des jours de Calais au Red Bull Studio. Il m'a dit, écoute, viens, on essaye de faire du son ensemble. Là, je suis sur la réédition. Essayons des trucs. Et ça a hyper bien marché. On a sorti on a fait plein de sons et tout ça ce jour-là. Et en vrai, ça, il m'a proposé direct de faire la réalisation de l'album. Enfin, en tout cas, de la réédition d'abord. Franchement, on a dû faire ça en... Lui, il y avait déjà pas mal de textes de côté. On a dû faire ça en 3-4 mois maximum. En mode vraiment, je sais pas, côté un peu nouvelle connexion. Ça lui faisait du bien, comme ça me faisait du bien aussi de changer un peu de délire, d'aller sur des choses un peu plus pop encore de ce que j'avais fait.
C'est complètement dans l'ADN de Giorgio.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a... Enfin, en tout cas, artistiquement, c'était vrai. Enfin, on s'est fait écouter plein de trucs. On avait plein de refs en commun. Beaucoup de trucs rock aussi. C'est ça qui a permis, par exemple, de faire des sons comme Non et tout ça, où on s'est trop amusé.
C'est le morceau que je préfère, justement, moi,
ouais,
sur cette édition.
De ouf.
Foncé dans un hall sale, cimetière inondé de chaudes larmes. Y'avait ni romance, ni orgasme. Juste de l'alcool et de la grosse frappe. De quoi fuir la réalité. Mais certains sont jamais revenus. Et nous...
Et en tout cas, c'était musicalement, il n'y avait pas forcément de...
De payer des charges ou de...
Ouais, c'est ça. Mais juste, en vrai, on se faisait écouter plein de trucs et je voyais exactement là où il voulait en venir.
De toute façon, Giorgio, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui, à chaque disque, a besoin d'avoir quelqu'un comme ça. Tu sais, il y a Angelo Follet sur un disque, il y a un tel sur un autre. À un moment, il y avait Medellin qui l'a accompagné beaucoup aussi. Bref, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de ça, en fait, à chaque fois, d'être challengé par un nouveau musicien,
oui,
tu vois.
Ouais, sûrement, ouais, grave. Mais en tout cas, ça a hyper bien fonctionné sur la réédition et du coup, on a enchaîné direct sur l'album, Année Sauvage. Et donc, c'est trop bien parce que pareil, en vrai, encore dans la même mentale que ce que je te disais par rapport à Balao et tout ça, en vrai, je fais d'autres choses que je... Enfin, je fais des choses que je ferais pas avec Bécard, que je ferais pas avec d'autres artistes. Et du coup, genre, ça... Enfin, et c'est vraiment une de mes... Enfin, comment... un style que j'aime vraiment bien et que j'écoute tout le temps, enfin que j'écoute beaucoup, tu vois, même ce truc un peu indé et tout ça dans la pop. Donc ça m'a plu de mélanger ça au rap. Et
donc, malgré le temps que tu passes en studio à faire de la musique, t'essaies toujours d'avoir du temps libre. Ça se trouve, c'est même pas t'essayes dans le sens d'avoir un effort, mais t'arrives toujours en tout cas à avoir ce temps libre d'écouter des choses qui peuvent même te nourrir, quoi, jusqu'à te nourrir, quoi.
C'est dur un peu des fois, je trouve, parce que automatiquement, je sais pas, tu finis le studio hyper tard, tu te réveilles, t'enchaînes direct sur une autre session. T'as pas forcément envie au réveil d'ouvrir tes yeux et te remettre du son. Mais je sais pas, il y a un truc que j'aime vraiment bien. Je me mets une petite un peu routine de quand j'arrive, je sais pas, avant que l'artiste vienne, je me mets au studio, je me mets du son sur mes enceintes, je me bois mon petit caf. Il y a quand même un truc que, je sais pas, j'écoute les dernières sorties ou je me réécoute un album que j'avais kiffé à l'ancienne et tout ça. Je pense qu'il faut quand même garder ce truc-là. Parce que c'est là-dedans que tu vas trouver tes idées, c'est là-dedans que tu t'inspires, c'est là-dedans que tout...
La musique, ça t'en restait donc une passion et pas seulement une occupation professionnelle.
De
donc,
ouf.
Ça passe déjà par une audition et une écoute, voilà, c'est ça.
C'est vrai que l'écoute, elle est plus du tout la même qu'à l'ancienne. J'ai plus du tout l'écoute d'un auditeur, mais c'est tout, hein, c'est le taf et tout ça. Mais c'est le seul truc que je regrette un peu de plus avoir ce truc de me prendre des méga gifles et tout ça. Là, maintenant, automatiquement, il a utilisé peut-être...
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu vois, t'as direct ces automatismes-là. Mais écouter même des choses que j'ai... Enfin, des choses que je sais qu'à première vue, je vais pas aimer. Je sais pas, ça, c'est vraiment cool... écouter juste en mode même des albums de style complètement improbable.
Bien sûr,
même important. Pour du sample, en vrai de vrai, c'est trop bien.
Totalement. Il y a un groupe que j'ai pas cité, qui est un groupe un petit peu à part, qui est le groupe Troisième Œil.
Ouais.
Qui est un grand groupe de l'histoire du rap français, un groupe marseillais. Et donc, c'est vrai qu'au vu des artistes qu'on a cités, c'est-à-dire soit des gens qui sont avec qui tu as évolué dans ton cercle proche, des artistes comme Bécard, ou même de ta région comme Ben, ou même avec la même sensibilité musicale que toi, comme Giorgio, là, on est sur autre chose avec Troisième Œil. Comment tu arrives à travailler avec eux?
Je pense déjà, par rapport à tous les artistes avec qui j'ai bossé, de base, il y a vraiment ce côté humain, je pense, qui ressort en mode... Moi, c'est vraiment le côté connexion. Je me prends pas tant la tête sur le truc du style, etc. C'est vraiment en mode, oh tiens, qu'est-ce que je peux faire avec un... Mais en vrai, c'est le tourneur de Bécard, qui est Alban, qui m'avait parlé, qui bossait en tant le management du Troisième Œil, qui adorait ce groupe et qui voulait vraiment refaire un album pour fêter leurs 20 ans.
20 ans, c'est ça. Puisque l'album, Hier, Aujourd'hui, Demain, je crois que ça sort de mémoire en 99.
Ouais, ce que j'allais dire. Voilà, ouais. Et moi, je connaissais pas du tout le groupe. En vrai, j'avais jamais écouté. Je connaissais juste un des sons qui est dans la BO de Taxi, je pense.
Bah oui, la vie de rêve.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça, bien sûr.
Mais je savais pas que c'était tel groupe, etc. Et en vrai, il m'a dit, viens. Ça a commencé. Ils avaient fait un morceau avec Demi P. Où ils cherchaient une prod. Ils aimaient pas la prod d'origine et ils avaient envoyé à plein de producteurs. Et du coup, j'avais fait une version. Et pareil, j'étais allé sur un truc vraiment très musical, très ensoleillé, guitare, du road. Enfin, j'avais tout envoyé parce que je voulais... Enfin, je sais pas, il y avait un côté challenge. Vas-y, t'as une ACAP, fais ce que tu veux. Je me suis vraiment amusé sur le track. Et après, du coup, ils m'ont fait venir à Marseille. Je les ai captés, c'était trop bien. Humainement, ils sont vraiment cool.
De ouf.
C'est des tontons, enfin, tu vois, en mode, c'est trop... C'est bon mood, c'est marrant, d'ailleurs, comme... Enfin, parce que je me... Enfin, je sais pas, c'est marrant comme expérience. Mm-hmm.
Moi, parmi les morceaux que t'as fait pour eux, il y a un morceau qui est un peu un morceau évident dont je vais te parler, c'est le morceau Hymne à la racaille 2.0. Et je trouve que c'est un exercice intéressant parce que donc, tu reprends la boucle de piano du morceau original, mais tu l'as travaillé rythmiquement différemment, en fait.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est un rework... qui est intéressant, quoi.
Ouais, mais je pense que ma force là-dessus, c'est que j'avais pas du tout écouté le morceau. Donc moi, je me suis juste retrouvé avec un sample. Ils m'ont dit, on a ce morceau, truc, nan. J'ai fait play, j'ai écouté le sample, je suis allé sur WooSample, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, ok, qu'est-ce que j'aurais fait avec ça, tu vois. Donc en vrai, il y avait, du coup, c'était marrant. Et ça et tout s'est très vite enchaîné où ils m'ont dit, tiens, il y a un tel qui vient de poser dessus. Oh, ok.
Il y a Naps.
C'est ça. Il y avait Tima là, juste après. Tima. Et à la toute fin, ils ont enregistré Lino. J'étais en mode, mais là, c'est trop. Enfin, c'est incroyable, quoi.
Les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille. Les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille. Des brouillards, balèzes. L'hymne à la racaille de France. En Y, insolent. L'hymne à la racaille.
Et donc, on arrive là en 2023 avec l'album Plus fort que l'orage de Bécard, qui, à titre personnel, je trouve, c'est peut-être votre meilleur disque.
Voilà. Trop cool.
Justement, en termes de de direction musicale, d'idée même lui de maîtrise de son rap, tu vois, de son écriture, de son interprétation, de son interprétation. Mais toi aussi, je trouve qu'en termes d'idée musicale, tu sais, ça... c'est évident ce que je vais dire, mais tu sais, tu te nourris forcément de toute ton expérience accumulée, tu vois. Et je trouve que ce disque, alors c'est évident de le dire maintenant parce que c'est le dernier qui est sorti avec tes prods, mais qui se nourrit aussi de tout ça, quoi, tu vois. Est-ce que quand, sur un disque comme celui-là ou comme les précédents, il y a à chaque fois avec Bekar, il y a le truc de tiens, ce serait bien qu'on essaye justement de faire encore mieux ou en tout cas d'essayer d'aller dans cette direction, etc. Ou c'est juste parce que vous êtes dans un flux de travail continu et c'est le résultat de ça, quoi.
Je pense que c'est le mélange des deux. Parce que déjà, de base, une fois qu'on avait fait, Mira Sierra, pour moi, l'étape d'après... après avoir fait des morceaux comme Dehors, comme Un matelas sur le sol et tout ça, l'étape d'après, ça serait de pousser vraiment le côté musical à... aller chercher des vrais drums, des vrais trucs et tout ça. Mais j'avais vraiment peur de tomber dans ce côté branlette et de faire un album qui est pur rap et tout ça. Et j'avais, en tout cas, c'était vraiment un peu le challenge pour moi en tant que pour le côté production. Et je sais que le premier morceau qu'on avait fait, c'était Razorlight, et qui a vraiment un peu donné un peu la direction. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc très Kanye West dans les drums. En tout cas, c'était vraiment ce que je voulais. Un truc très crade et très dynamique.
Je pensais être seul dans ma piole jusqu'à l'entendre sur mon épaule. Cette voix qui suit la mélodie qui écrit la pluie frappant la tôle. Je ne sais pas si c'est mon ennemi au vu de ce qu'elle me dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle me connaît mieux que personne d'autre.
Et, et en même temps, un truc dans les accords et dans, dans comment tout sonne, etc. Il y a un truc très pop. Du coup, en vrai, automatiquement, ça a donné un peu une bonne lancée. Mais après, on voulait pas non plus partir complètement là-dedans parce que c'est. Mais non, ça, en tout cas, on a pris trop du plaisir à le faire. On a été pas mal en séminaire, dans des endroits où il y avait des vrais pianos, des vrais trucs. Donc, on se retrouvait pour la. Enfin, en tout cas, moi, je me retrouvais vraiment pour la première fois dans des studios où je pouvais m'amuser. Je courais dans tel endroit, je dormais plus. Enfin, c'était trop bien. T'avais vraiment des. Enfin, je sais qu'il y a plein de morceaux où il y a très très peu de VST et moi je revis avec ça, enfin c'est trop bien, du coup tu utilises des vraies choses pour les ressembler, enfin tu vois, je trouve que c'est là où il y a un côté très riche et pour un producteur en tout cas c'est vachement inspirant.
Donc même sur un morceau comme Sans la pluie par exemple, ça va être du vrai instrument que tu as travaillé, c'est ça?
Ça après c'est pas sur tous les
okay,
morceaux,
okay, ouais.
Mais sans la pluie par exemple c'est la flûte de Paul.
Ah ok.
Sans la pluie c'est que des synthés.
Non, mais je trouve intéressant justement comment ça sonne ce morceau là, avec cette nappe très crade justement.
Après je l'avais beaucoup retravaillé ça. Là depuis peu j'ai acheté des synthés chez moi, donc je commence à travailler un peu ce côté analogique, essayer d'utiliser de moins en moins de VST ou des choses qu'on peut entendre souvent, d'essayer de créer un son ou de vraiment d'aller rechercher ce genre de truc. En tout cas, c'est ce que je cherche en ce moment.
C'est quoi ta production préférée sur cet album?
Je pense que c'est Au-dessus d'un Airbus.
Ouais.
Je trouve qu'il y a un truc que pendant trop longtemps, en tout cas, même en écoutant l'album, quand on était en train de le travailler, j'avais vraiment peur sur des morceaux comme... avec des Razorlight et tout ça, d'avoir un truc surchargé où il y a des changements d'accords, il y a des ci, il y a des ça, il y a vraiment énormément d'infos. Et j'avais jamais fait de morceaux uniquement avec, enfin en tout cas sans drum. Et je tenais à faire un truc qui faisait, en tout cas ce côté guitare-voix, quand on était en studio avec Vincent le guitariste, on s'est dit faut qu'on essaye un truc comme ça. Mais comment aller le pousser plus loin et tout ça. Et du coup, je sais pas, avec le synthé au refrain, c'est un stylophone, c'est un petit truc comme ça qui coûte 20 balles qu'on m'avait offert. C'est trop marrant de pouvoir... je sais pas, du coup, le contraste, il marche bien entre le côté hyper synthétique, un peu rage, mais quand on écoute le morceau, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est ce contraste-là hyper... je sais pas, cet instrument hyper nasillard et synthétique qui arrive au refrain, c'est grave surprenant et tout. Je sais pas, j'aime trop la vibe du son. Même dans les accords, c'est trop beau.
Alors évidemment, cette année, il y a eu aussi un nouvel EP de BNPLG sur lequel tu produis, qui est Je rêve mieux qu'avant. Donc, le travail n'arrête jamais. T'es toujours en train de bosser.
T'as été d'ailleurs au repas de famille, non?
Pas du tout.
Ah ok, j'étais sûr. Ah, non, j'avais bu.
Voilà, c'est un petit, petit message à Ben. Invite-moi à tes repas de famille la prochaine fois, s'il te plaît.
T'avais vu le mail.
Merci pour la passe D.
Vas-y, avec plaisir.
Non, je plaisante évidemment. Non, j'étais pas au repas de famille, mais en fait, j'ai l'impression, quand on voit ta discographie, en l'espace de 5 ans, puisque voilà, ta première trace, on le disait, c'était Balao à partir de 2018, en tout cas sortie officielle, quoi, jusqu'à aujourd'hui, on a 5 ans. Et je te le disais en hors antenne avant qu'on prenne l'émission, j'ai compilé tout ça pour vraiment me préparer l'émission. Et on est déjà à 8 heures de musique presque neuve. Donc il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression que tu n'arrêtes jamais d'être en production et en studio. Quoi.
À fond. Mais en même temps, c'est trop stimulant. Il y a un truc de. Je trouve que même humainement, c'est hyper cultivant parce que tu dois rechercher comment. Enfin, tu dois apprendre tout le temps. Tu dois toujours faire mieux. Tu te combats un peu contre tes trucs de manque d'inspi ou de trucs de un peu de down en mode ah là qu'est-ce que je lâche, vas-y je refais la même sauce, vas-y qu'est-ce que, enfin tu vois, tu te combats t'es toujours en combat un peu contre toi-même, Crary, et du coup je trouve que c'est trop intéressant et moi ça me stimule à fond, enfin genre, et du coup c'est, je pense que c'est vraiment ce truc là de même sur des albums en mode enfin il y a ce truc de pas de pression mais t'es quand même en mode de, t'as envie de donner le meilleur de toi, t'as envie que l'album soit aille le plus loin possible, qui est quelque chose de nouveau, mais en même temps, pas non plus quelque chose qui dénote avec le style. Enfin, je sais pas, tout ce truc-là, c'est vraiment ça qui me booste et qui me... Je sais pas, qui me... Ouais, qui... Je sais pas, ça me stimule, tu vois. Ouais, c'est ça.
Dans le futur, c'est quoi tes envies, là ? Dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce que c'est de continuer à faire de la réal complète sur des albums comme tu as fait avec Giorgio, Ben, Bécard ? Est-ce que tu as envie de produire de nouveaux artistes ? Voilà. Est-ce que tu as des idées en tête, là ?
Je pense que dans la production, je n'ai pas forcément de temps de... Je me dis pas forcément de choses. J'ai envie de continuer parce que ça, c'est toujours un truc qui est naturel et qui, à chaque fois, j'achète des nouveaux synthés, j'achète des... Enfin, je suis toujours dans ce truc de chercher... plus et de même j'apprends le piano, enfin tu vois, en tout cas d'apprendre,
un apprentissage perpétuel,
c'est
quoi.
Ça de ouf, mais par contre là je suis en train de j'avance pour monter un studio sur l'île, mm-hmm. assez gros avec plusieurs cabines, etc. Et ça c'est un projet en tout cas qui me tient grave à cœur, parce que il y a pas réellement ça à Lille, mm-hmm. et j'aime trop cette ville, j'aime trop ce qu'elle dégage, et je trouverais ça bête avec entre guillemets, ce que j'ai fait à Lille, de venir m'installer sur Paris, etc. Donc ouais, ça, c'est vraiment le projet un peu qui m'anime à fond, là, dernièrement. Et sinon, franchement, c'est de produire, d'être toujours sur des albums, de continuer exactement dans la même lancée, et d'aller chercher encore plus loin, et de mélanger encore des trucs qui sont immélangeables, enfin... T'as gaffe
des... Ouais, de réussir justement ce genre de mélange, de réaction chimique, quoi.
Ouais, de ouf.
Dernière question que je pose à tous les producteurs qui passent à ce micro. Si aujourd'hui, tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, en une production, ce serait laquelle ? De ton répertoire, évidemment.
C'est vrai, mais en plus, c'est une bonne question parce que ça, en vrai, ça arrive souvent, tu vois. Mais après, ça dépend aussi en face de qui je me retrouve, tu vois ce que je veux dire.
Tu fais le serpent, là.
Oui. Non, mais tu vois, si je capte que c'est quelqu'un qui me dit j'écoute de tout, ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Je vais... Mais... je pense là, en tout cas, dernièrement, quand on me demandait ça, je faisais écouter Razorlight de Bécard.
Ouais.
Mais en même temps, il y a un truc, dans la manière dont ça commence, c'est assez particulier. Donc, je sais que en général, les gens qui me demandent ça, c'est des gens qui
écoutent du rap. Ouais.
Oui ou pas. Ouais, c'est ouais. Ça. Donc, j'aime bien cette surprise-là, donc, pour voir même leur réaction un peu. Mais ouais, non, je pense que je dirais ça, hein.
Merci beaucoup, Luchi.
Merci à toi.
Bah, avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes de BPM et évidemment les prochains. Merci à tous. À très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.